Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Paroles d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Il est une vallée, on se laisse porter hein, par cette petite musique et on oublie de parler. Il est une vallée, c'est une émission qui nourrit un fort penchant pour la question de la transition écologique et qui donne la parole à celles et ceux qui la font, cette transition, et qui la pensent ici dans la vallée de la Drôme. C'est une émission soutenue par l'association BioVallée. Elle est en alternance, en studio comme aujourd'hui, une fois par mois. Et puis sur le terrain, les autres semaines, sous forme de portraits, de reportages, de documentaires, des formes variées pour vous donner des regards diversifiés sur ce qui se fait dans la vallée. Il est une vallée, elle est proposée en alternance par deux radios associatives de la vallée de la Drôme, Radio Saint-Ferréol et Erdiwa. Et puis les émissions sont diffusées simultanément sur les deux antennes. Dans l'émission du jour, je vais vous inviter à regarder vers le bas, pour voir plus loin. Je vais vous inviter à concentrer votre attention sur le parterre, ou du moins sur l'invisible qui se cache sous le parterre. Et je vais vous proposer de tenter de lui donner de la perspective à ce sol, à l'explorer, à vous y aventurer, à rencontrer de quoi il est fait et où il nous emmène. Pas facile, je le conçois, de prendre cette hauteur-là quand on n'a pas de visibilité. Pas facile, évidemment, mais fondamental. Fondamental parce que le sol, lui, et ce qu'il constitue intrinsèquement, c'est fondamental d'en prendre conscience, c'est fondamental de prendre conscience de l'importance qu'il a dans la vie de la planète et des êtres qui la peuplent. C'est fondamental d'avoir conscience qu'il est indispensable, le sol, il est indispensable d'en prendre soin. Pour vous faciliter la démarche dans cette exploration de la vie sous terre, je vous propose de l'éclairer, ce sol, grâce aux lumières de personnes qui tentent de le comprendre, et qui œuvre à le nourrir et à le valoriser. Pendant cette petite heure d'émission, trois invités vont nous accompagner à la rencontre de ce qui fait le sol et de ce qui peut être fait pour lui, pour le bichonner, et limiter les traces de nos gros sabots d'humains sur sa modeste existence. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de Radio Saint-Fé aujourd'hui Aurélia Diasnis, du bureau d'études permaculture sur la permaculture Permalab. Bonjour.
Bonjour.
Blandine de Montmorillon, maître composteur de l'association Compost et Territoires. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Et puis Corentin Morisseau, qui est maraîcher à la ferme des Buis. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Alors, ce qui vous réunit aujourd'hui dans ce studio, c'est le sol. Et c'est ce qui se trame là-dedans. Ce qui se trame et comment vous faites à votre échelle pour travailler avec, tout en en prenant le plus grand soin. Pour commencer cette émission, je vais vous poser une question, une grande question. Pour vous, c'est quoi un sol vivant? Qu'est-ce qu'on trouve dans un sol vivant? Qui veut commencer?
Je veux bien commencer.
Blandine.
Moi, je dirais que c'est tout un monde, en fait. On a l'habitude de parler de la forêt ou de la haie ou de la prairie. Et en fait, le sol, c'est un monde aussi, c'est un écosystème, comme on pourrait décrire un arbre. Avec tous ses habitants, comme un énorme immeuble, avec des habitants, des feuilles, des végétaux, des animaux, et tout le monde qui agit dans cet énorme immeuble. Et ben, le sol, c'est pareil, c'est un écosystème où on a des étages, on a la roche en dessous, on a la litière au-dessus, et à l'intérieur, il y a plein d'habitants en fait, qui interagissent à tous les étages, qui se mangent, qui se coopèrent, qui s'aident plus ou moins, qui s'évitent. Qui se grignotent, enfin, c'est tout un monde.
Merci Blandine, quelqu'un veut compléter ou donner son regard? Aurélia?
Moi je veux bien ajouter que moi j'aime bien le comparer aussi à notre estomac. Il est rempli de bactéries et de champignons et tout ça fermente et ça crée, c'est tellement riche et c'est la base de notre vie ici, on vit grâce au sol. S'il n'y avait pas de sol, donc pas de plantes, pas de toute cette faune, eh ben on ne serait pas là aujourd'hui.
Merci Aurélia. Corentin? À quoi tu le compares, toi, le sol? On a l'immeuble, l'estomac.
Je sais pas, je pense que pour moi, c'est un réservoir massif de biodiversité, microfaune et macrofaune, sans doute beaucoup plus densément peuplé que l'univers aérien, que ce soit à la surface du sol ou dans les airs. Là, à l'intérieur du sol, on a une masse vraiment impressionnante de vie. Pour moi, en tant que maraîcher, c'est à la fois de la microfaune et de la macrofaune qui vient structurer le sol, qui vient apporter aussi des nutriments, en tout cas transformer des matières en d'autres qui viennent alimenter les plantes. C'est de l'eau, c'est de l'air aussi, avec toutes les galeries qui sont faites par les micro-organismes, par les vers de terre, par les campagnols aussi, et qui sont nécessaires à la bonne vie du sol.
Quelque chose à rajouter ?
Non, c'est assez complémentaire ce qu'on dit. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est intéressant. C'est quoi les vertus ? Qu'est-ce que, si on voulait donner des vertus à un sol vivant tel que vous l'avez décrit, ce serait quoi ces vertus ? Ça sert à quoi qu'il soit vivant le sol ?
On peut répondre par la négation. S'il est mort, il n'y a pas de vie. Donc, oui, ce que tu as dit tout à l'heure, il nous est absolument nécessaire à la vie végétale, puis à la vie animale. Donc, dans toute l'échelle des chaînes alimentaires, c'est la base, quoi. C'est la base de la vie.
Corentin ?
De mon point de vue, un sol qui est bien vivant, c'est un sol qui va être du coup très riche en micro-organismes et en macro-organismes, c'est-à-dire vers de terre, insectes, etc. C'est un sol du coup qui va s'aérer tout seul, c'est-à-dire où j'aurai pas besoin de passer d'outils mécaniques dedans pour garantir qu'il y ait suffisamment d'air pour que les racines, les légumes poussent correctement dans ce sol-là. Et c'est aussi une garantie que je vais avoir suffisamment de nutriments pour faire pousser mes légumes. Parce que du coup, tous ces microfaunes et macrofaunes vont dégrader de la matière organique qui sert pas aux plantes tant qu'elle n'est pas dégradée par ces animaux-là. Et qui ensuite, elles vont pouvoir en profiter à partir du moment où elles auront été transformées par toute cette vie du sol. Donc pour moi, ça garantit de l'air, des nutriments et aussi quelque part de l'eau avec tous le mucus qu'elles vont pouvoir sécréter et qui va participer à coller les nutriments et l'eau dans le sol, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique.
Merci. Aurélia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, j'aimerais rajouter aussi que c'est un énorme stockage de carbone aussi, le sol. En fait, grâce à la décomposition par les micro-organismes et la faune du sol, des racines et de la litière qui se dépose au sol, des plantes, des feuillages, des branches mortes. Tout ça, c'est du carbone qui est restitué au sol. Donc c'est quand même une grosse banque de carbone.
À quoi il sert le carbone alors ?
Il sert à... c'est la matière, on est tous faits de carbone. Et donc il sert à nourrir la faune du sol. Et c'est bien qu'il soit dans la terre plutôt que dans l'atmosphère.
Merci. Je vous propose qu'on fasse, avant de rentrer dans les détails de tout ça, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour commencer cette émission. On va écouter un morceau d'un chanteur qui s'appelle Arnaud. Et ce morceau, il s'appelle « Please Exist ».
Please God, please exist. Don't you worry, I'm an atheist. Change the world in peace and green. Give humans the age of 16. Please exist, please exist, please exist. I'm an atheist. Feed the rich, feed the poor. Change guns to flowers. Give the victims of love, the victims of love. New lovers, please exist, please exist.
Please exist. Please exist. I'm an atheist. Please exist. Please exist. Please exist. I'm an atheist.
Sur Radio Sanfée et sur RDIWA, vous écoutez Il est une vallée, aujourd'hui consacrée à cette grande thématique qui est la vie du sol. Pour en parler, trois invités, Aurélia Diesnis de Permalab, il y a également Corentin Morisseau de la ferme des Buis à La Roche-sur-Grane, et puis Blandine de Montmorillon de l'association Compost et Territoire. Quels sont les principaux problèmes que rencontrent nos sols aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que nos sols, ils sont pas, peut-être pas morts, mais ils sont moins vivants, pas très vivants? C'est quoi les principaux problèmes?
Tu veux répondre sur l'agriculture déjà?
Corentin.
Sur l'agriculture, certains travaux de sol faits dans des mauvaises conditions, notamment quand... les terrains sont très argileux et ou très humides, peuvent avoir ça peut générer des compactions, voire des couches presque étanches à 30-40 cm en profondeur. Et à ce moment-là, ça pose divers problèmes. On va déjà avoir une bonne partie de la microfaune et de la macrofaune qui peut être tuée par ces travaux de sol. Et puis il y a aussi derrière des problèmes de... Donc si on n'a plus de vie dans ce sol, derrière on a beaucoup moins d'air, parce qu'il y a beaucoup moins de porosité, beaucoup moins de galeries. Donc on va avoir un sol qui va avoir tendance à plus s'asphyxier, plus facilement aussi se gorger d'eau, parce qu'il sera moins drainant, il y aura moins de galeries verticales qui permettront à l'eau de partir. Et donc on peut avoir des sols qui deviennent au fur et à mesure de moins en moins propices à la vie. Parce que asphyxié, tout simplement. Et de moins en moins propice aussi aux plantes, parce que derrière, si on a un tassement qui se fait, les racines peuvent avoir du mal à pénétrer les sols, à se développer correctement. Et elles peuvent aussi elles-mêmes se faire asphyxier, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'oxygène. Et s'il n'y a que de l'eau dans les sols, parce qu'on n'a pas de drainage suffisamment fort, les racines finissent par mourir d'elles-mêmes, en fait. Et du coup, on a de moins en moins de vie animale, mais aussi de moins en moins de vie végétale. Et puis, l'autre chose qui peut se passer aussi, c'est que à force de travailler le sol et de ramener la vie dans le fond du sol, parce que des fois, quand on passe la charrue, c'est ce qui se passe, en fait, où on a une inversion des couches, ou quand on met le sol à nu, tout simplement, on perd de la matière organique. Et cette matière organique, elle est aussi importante pour la vie du sol, pour la porosité du sol. Donc c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Après, simplement, faut se dire que tous les travaux de sol n'ont pas le même effet. Et en fait, on peut avoir des agriculteurs qui connaissent très très bien leur sol, qui interviennent avec des outils mécaniques parce que c'est leur pratique, parce qu'ils ont besoin de le faire, parce qu'ils sont sur des grandes surfaces et qu'il n'y a pas le choix. Et pour autant qu'ils le font bien parce qu'ils savent que justement, il ne faut pas intervenir dans telles conditions trop humides ou à tel moment là où les vers de terre sont tous sortis à la surface. Et du coup, voilà, par exemple, si on vient faire un labour un peu plus dans des périodes estivales où les vers de terre sont plus dans les fonds des sols, ben, on va beaucoup moins tuer les vers de terre. Parce qu'on dit qu'un labour, c'est à peu près 95% des vers de terre tués dans l'horizon de labour. Les vers de terre qui sont présents. Et si les vers de terre sont en dessous, ça pose beaucoup moins de soucis. Donc voilà, c'est à relativiser et à pas, je pense, accuser. Quand on voit les tracteurs dans les champs, en fait, il peut y avoir des travaux de sol qui sont plus ou moins bien faits, en fait.
Merci pour ces précisions.
Et pour continuer sur les activités humaines, on a aussi beaucoup de disparitions de sol, en fait. À chaque fois qu'on urbanise, qu'on bétonne, chaque fois qu'on construit un aéroport, une route, un parking, en fait, on supprime une surface de sol et on a 11 hectares à l'heure qui disparaissent en Europe, comme ça, de sol qui est en fait un rôle d'éponge. On le voit avec la ville de Nîmes qui est inondée régulièrement parce qu'il y a une telle zone urbanisée tout autour qu'en fait, il n'y a plus d'espace qui puisse remplir son rôle d'éponge en cas de gros afflux de pluie, quoi. Et cette bétonisation, elle est un peu irréversible parce qu'on continue à prendre du sol sans laisser la zone nécessaire pour autour des villes, par exemple. C'est quand même, ça se voit beaucoup autour des villes, soit en cas de grosse inondation, soit en cas de grosse sécheresse. Parce que les sols, ils ont vraiment un rôle de régulation du climat. Soit en rendant une partie de l'eau qu'ils ont accumulée en cas de sécheresse, soit au contraire en accumulant l'eau en cas d'inondation, quoi.
Vous n'avez pas parlé de la question, par exemple, de la pollution pour les sols ?
Et aussi c'est, je pense que tous les produits chimiques qu'on a mis, tout ce qui est pesticides et qui détruit la faune du sol, forcément que ça a un rôle de stérilisation du sol.
Ouais, j'aimerais bien ajouter quelque chose à propos de ça. C'est après la Seconde Guerre mondiale, ils ont retransformé leur excès d'azote, enfin l'azote qui leur restait. C'est un monsieur, je ne connais plus son nom. Donc il a remanié les usines pour créer en fait des pesticides pour à base d'azote. Enfin, c'était des engrais azotés plutôt, justement pour favoriser l'agriculture à cette époque-là. Et ils en avaient bien besoin, enfin en tout cas d'avoir plus d'agriculteurs et d'agriculture. Et donc ils ont lancé cette campagne, surtout aux États-Unis. Et c'est là où un peu ça a commencé ce dérèglement, et puis ça s'est enchaîné dans la destruction des sols. Donc après, la plante, on lui donne juste de l'azote ou de la potasse. En fait, il y en a tellement une mauvaise connaissance du sol qu'on pense qu'eux, ils ont pensé qu'il n'y avait que trois choses qu'il fallait apporter à la plante. Donc le sol était juste un substrat. Il ne fallait pas nourrir le sol, mais nourrir la plante. Et donc après, la plante, elle n'a plus tous les éléments qui lui sont nécessaires. Donc du coup, ils ont créé les pesticides pour pas qu'elle soit concurrencée par les autres plantes. Et puis tout ça, bien sûr, ça pollue les sols, les nappes phréatiques. Et puis après, ça tue toute la faune du sol et les micro-organismes qui vivent dedans. Et donc voilà, c'est un cercle vicieux. Dans ce cas-là.
Alors justement, vous, tous les trois, à votre manière et à votre échelle, vous tentez d'œuvrer pour renourrir, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, renourrir les sols.
Renaturer, on pourrait dire.
Renaturer les sols. Je vous propose qu'on fasse un peu un petit tour de studio pour comprendre comment vous faites, quelles sont vos activités. Peut-être on peut commencer avec toi, Blandine. Donc toi, tu es maître composteur, maîtresse compostrice.
On n'a pas encore eu le féminin, mais ça va venir.
À l'association Compost et Territoire. On t'a déjà entendu à la radio, mais ça vaut le coup de le redire. Qu'est-ce que c'est cette association?
Alors c'est une association qui existe depuis 2015 et qui est née un peu d'un besoin de personnes qui avaient été formées guides composteurs, c'est un peu des ambassadeurs du compostage. C'était à Valence et on s'est aperçu qu'on avait vraiment besoin de plus de composteurs partagés et individuels. pour faire du compost, c'est-à-dire pour créer cette espèce de l'équivalent de l'humus de la forêt, en fait. Et les gens le demandaient. Donc on a créé l'association qui rayonne sur toute la Drôme et qui a son siège social ici à Chabriant. Et donc on a plusieurs actions, à la fois de la formation, donc de personnes qui vont être les référents des sites de compostage partagé. Dans les endroits où on n'a pas de jardin, on installe, par exemple à Creil, il y a 5 composteurs partagés, des sites. Et il faut former des bénévoles qui vont suivre ces sites, parce qu'il faut beaucoup brasser. On a parlé de l'air depuis tout à l'heure, les galeries, etc. Et il faut beaucoup brasser pour que le compost se fasse comme il faut. On fait aussi des formations de guides composteurs, c'est-à-dire les ambassadeurs du compostage, qui vont être un peu dans chaque commune pour renseigner leurs voisins ou pour faire une animation dans l'école, un article dans le journal, un stand. Enfin voilà, c'est un peu plus large, un peu plus long comme formation. On fait aussi des animations scolaires sur le compostage et le gaspillage alimentaire. Et puis on installe aussi des composteurs donc partagés dans tous les endroits, donc chaque fois que les communautés de communes qui ont la compétence déchets nous le demandent. Et on les installe aussi dans les collèges, puisque la Drôme, on a un contrat avec le département de la Drôme pour installer des composteurs dans les collèges. Et on peut le faire dans les écoles aussi. Et cette idée du gaspillage, c'est très important, parce qu'on n'installe pas un composteur pour le plaisir, c'est si on en a vraiment besoin. C'est-à-dire que dans une école, il faut d'abord voir s'il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Et ensuite, on installe le composteur. Donc c'est un peu un travail qui va ensemble.
Est-ce que tu peux expliquer aux auditrices et aux auditeurs à quoi ça sert le compost ?
Ben, c'est l'équivalent de l'humus de la forêt, en fait. Hein. Donc c'est la base de la nourriture des plantes, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et nous, on a, dans le compostage, on a un deuxième intérêt, c'est de quand même réduire nos poubelles, puisqu'en fait, c'est 30 à 40% de nos poubelles en poids qui est formée de matières qui peuvent être compostées. Tout ce qui est dégradable naturellement, donc toute la matière organique qui vient de notre cuisine, peut être dégradée avec la microfaune et la macrofaune dont on a parlé, et ça forme du compost. Et ce compost, on va le mettre ensuite dans les jardins, si on a des jardins autour des composteurs, dans notre jardin si on a un composteur individuel, ou dans une école, dans le jardin d'une école. Enfin, il ne va pas être trop transporté, il va rester sur place. Et donc, on a un cercle vertueux. Puisque dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, il y a un cycle permanent. Et donc on effectue ce cycle en recréant du compost qui sera épandu dans les jardins. On va se servir pour les plantes, les plantes vont donner des épluchures, les épluchures vont être dans le composteur, etc. etc. Donc on a vraiment cet intérêt vraiment écologique de la formation du compost. On a l'intérêt financier, citoyen de réduire nos déchets. Et puis on a intérêt social aussi parce que c'est un nouveau rendez-vous, en fait, les composteurs. Les gens se rencontrent autour du composteur, ils font connaissance. Il y en a même qu'on a fait rencontrer, qui sont restés ensemble depuis qu'ils se connaissent au composteur. Et voilà, c'est un endroit très intéressant socialement.
Et alors, tu disais que Compost et Territoire est né en 2015 suite à une vraie demande. Mmh. J'imagine que vous vous êtes développé, il y en a eu de plus en plus des composteurs qui ont été. Vous avez des chiffres un petit peu?
On a installé une vingtaine dans la CCVD, le Val de Drôme. On en est à 8 pour la 3CPS, donc Crétois Pays de Saillant. Et puis après, on a maintenant un nouveau marché avec le syndicat de traitement sud de la Drôme qui est Porte de Provence, le CIP, où là, il y a un gros programme de formation de guides composteurs, un par communauté de communes, une séquence de guides composteurs, c'est-à-dire 15 personnes par communauté de communes du sud de la Drôme qui vont être formées, qui seront des nouveaux ambassadeurs. Et le CIP va installer des composteurs partagés un peu dans toutes ces communautés de communes, il y en a 8. Et donc on va suivre ça, on va faire la formation et on va faire le suivi des composteurs. Parce qu'on les suit pendant un an et après on n'est pas un service après-vente qui va faire tout le temps le suivi. On les remet après à la communauté de communes et on veut vraiment enclencher un phénomène, en fait, qui est demandé vraiment par les habitants. Hein. C'est énorme, la demande des habitants.
Qu'est-ce que vous pensez d'une association comme Compost et Territoire, Aurélia Corentin, qui installe des composteurs partagés dans différents lieux?
Moi, je trouve que c'est une très belle initiative et que ça soit porté par des personnes qui s'y connaissent et qui font un suivi comme ça. Enfin, ouais. Ouais, qu'il y ait des gens qui se consacrent à ça, moi, je trouve ça très beau.
Corentin.
Bah, c'est vrai que ça me paraît... Ça me paraît aujourd'hui presque aberrant, moi, quand je suis dans des, par exemple, en voyage ou en camping, et que je suis obligé de jeter de la matière organique liée à, je sais pas, reste de pique-nique, de quoi que ce soit. Ça paraît presque aberrant de le jeter dans la poubelle, en fait, à tel point c'est lourd, et à tel point c'est de l'eau, et que généralement c'est incinéré, et que du coup ça a vraiment peu de sens. Et du coup, effectivement, en campagne, on est quand même vraiment de plus en plus à avoir des composts, puis c'est assez facile de le faire. Et c'est vrai qu'en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de ce genre d'association pour faciliter un peu la logistique et que ce soit quelque chose qui soit viable et bien tenu aussi en ville. Parce que le problème qu'on peut avoir de faire du compostage en ville, c'est que si c'est pas bien tenu, on peut vite avoir des problèmes d'odeur, qui sont assez désagréables pour le voisinage. Donc je pense que ce soit encadré par une association qui sait comment le faire et qui sait aussi comment le valoriser pour donner un peu de... inciter en fait les gens à continuer à le faire, parce qu'ils voient directement que ça permet d'enrichir les jardins locaux. Je crois que c'est quand même vraiment pertinent. Mais...
Et le compost, c'est quelque chose que vous utilisez, vous ?
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en permaculture ? Qu'est-ce que c'est déjà la permaculture ?
Alors...
En quelques mots.
Ouais, moi c'est ça. Parce que la permaculture, il y a autant de définitions qu'il y a de permaculteurs, on pourrait dire. Mais en fait, ce serait mettre en place des écosystèmes diversifiés et résilients qui imitent en fait les écosystèmes naturels. Donc on parle beaucoup de design en permaculture. C'est en fait, c'est concevoir au mieux des systèmes qui sont vraiment, résilients. Donc c'est vaste, ça s'applique à l'agriculture, mais on peut l'appliquer à tous les autres domaines en fait, parce que ça découle de trois grandes éthiques, et puis il y a une série de principes, c'est un peu nos outils pour designer sur des... nous on design essentiellement sur des fermes, aussi pour des particuliers qui ont des petits jardins, ou pour aussi même... ça peut être... là, il y a un village, par exemple, qui nous demande pour... il aimerait devenir autonome alimentairement. Donc, c'est assez vaste.
Et le compost dans tout ça ?
Eh ben, le compost, il a totalement sa place. Il est... après, ça dépend. Nous, des fois, ça dépend des cas, mais on peut aussi faire du compost de surface en déposant directement sur place. Parce que aussi faire le compost, ça demande de le remuer, ça demande un effort, un peu de travail. Enfin, voilà, ça va, c'est ok. Mais voilà, il y a différents types de compost aussi. Composter aussi la matière organique des arbres. Enfin, c'est vaste comme sujet quand même.
Alors toi, Corentin, est-ce que tu fais de la permaculture ?
Ah, c'est très difficile, hein, comme on le disait à l'instant. Il y a autant de définitions de la permaculture que de pratiquants, je crois. Nous, en tout cas, on ne revendique pas faire de la permaculture ou autre. Si on devait définir ce qu'on fait sur la ferme, c'est essentiellement qu'on ne travaille pas notre sol maraîcher. Voilà, je pense que c'est une définition simple et qui décrit assez simplement ce qu'on fait.
Le non-travail du sol.
Ouais, le non-travail du sol, ouais.
Alors en quoi ça consiste, le non-travail du sol ?
Non, ça consiste simplement à ne pas toucher le sol, à ne pas venir mettre des outils mécaniques, animés ou non, dans le sol pour l'aérer ou pour le retourner ou pour désherber. Et du coup, ça implique de le protéger en surface, le sol, parce que c'est très très compliqué de ne pas travailler un sol sans avoir une grosse couverture de matière organique sur ce sol-là. Sinon, le sol, il va sécher, il va mal vivre en surface, on va risquer d'avoir une croûte, et ça va être très très difficile de faire quelque chose dessus.
Donc ça veut dire une épaisseur de combien à peu près ?
Ça dépend quelle matière on utilise, en fait. Des fois, une épaisseur de 2-3 cm peut suffire, et on peut, moi, couramment, quand je démarre un nouveau jardin, un nouvel espace de culture, je mets une quinzaine de centimètres de compost. Donc c'est quand même un apport massif de compost, ça fait beaucoup de compost. J'utilise le compost plutôt qu'une autre matière organique parce que c'est très pratique pour semer et pour planter directement dedans. Contrairement par exemple à la paille, où on a nos amis normands du réseau maraîchage sur sol vivant en Normandie qui utilisent beaucoup de paille parce que là-bas ils ont un accès assez facile à la paille, puis il y a aussi tous les haras qui leur fournissent de la paille, etc. Moi j'en ai vu qui mettaient 60 cm de paille au-dessus du sol avant d'installer les cultures. Et la paille, ça réduit très rapidement, c'est de la matière fraîche qui va se dégrader, donc en fait, 60 cm de paille, il va rester 6 cm de compost maximum. Donc en fait, c'est pas si massif que ça. Moi, j'apporte 15 cm, après, j'en apporte pas, ou très peu. Mais c'est vraiment pour faire une première couche de base qui va être protectrice, que je vais pas enfouir, que je vais laisser en surface, vraiment pour protéger contre le soleil, contre le vent, éviter que ça se dessèche. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de micro-organismes, et même les vers de terre par exemple, qui ont beaucoup de problèmes avec la lumière du jour en fait. Ils vont avoir du mal à habiter la surface tout simplement parce qu'ils sont directement exposés à la lumière et que c'est compliqué pour eux. Et cette couche-là les protège en fait, et leur permet d'aller vivre jusque dans les derniers centimètres du sol.
Alors tu disais que toi le compost tu le laisses plutôt en surface, ouais. Mais on peut aussi le mélanger. Comment ça peut se passer?
Oui, alors nous, on conseille, en fait, pour compléter ce que dit Corentin, il y a le compost de déchets de cuisine, en fait, puisque nous, on installe des composteurs collectifs, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas de jardin, donc c'est du déchet de cuisine, qui est très riche en azote. Mais on peut faire aussi du compost de déchets verts, et nous, donc c'est tout ce qui est déchets de jardin. Et à ce moment-là, nous, on conseille, quand on utilise le compost très riche de cuisine, on conseille de l'enfouir, mais de l'intégrer juste à la première couche de terre, en fait, dans son jardin, donc pour enrichir et pour redonner un peu cette matière organique qu'on a prise parce qu'on a cultivé les fruits et légumes. Et puis, on conseille justement, pour éviter cette sécheresse, de pailler avec du déchet vert de jardin, qui est moins riche en azote, qui va protéger le compost qui est en dessous, et le paillis, il va aussi se dégrader petit à petit et former aussi du compost, un peu moins riche en azote. Et donc, en fait, quand on dit compost, c'est compost de déchets de cuisine et compost de déchets verts. Et en ce moment, c'est aussi une problématique, le déchet vert. Hein. Donc, c'est quelque chose qui arrive en quantité phénoménale en déchetterie et qu'on pourrait garder au jardin aussi. C'est aussi de la matière organique qu'il faudrait arriver à garder au jardin plutôt que de la perdre en l'apportant en déchetterie. Et là aussi, il y a vraiment une histoire de finances parce que c'est presque souvent la moitié des coûts d'une déchetterie, c'est du déchet vert. Hein, parce que le tonnage, c'est à peu près la moitié du tonnage d'une déchetterie. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour garder notre matière organique dans nos jardins et en faire quelque chose d'intéressant pour aussi renaturer nos sols.
Corentin, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais préciser que c'est effectivement nous du compost de déchets verts qu'on utilise, ouais, qui vient de plateformes de compostage. Parce que si on utilisait du compost de cuisine, on va dire, effectivement, on apporterait beaucoup trop d'azote, ce serait pas intéressant. Et puis l'autre chose, c'est qu'on apporterait que de la matière compostée, qui nourrit pas vraiment la vie du sol, en fait. La vie du sol, elle a besoin de matière fraîche, c'est-à-dire non compostée. Elle mange ça, elle mange pas le compost. Le compost, en fait, c'est de la matière fraîche qui a été déjà digérée par de la vie qui était dans ce tas de compost. Et puis ensuite, une fois que le compost est fait, cette vie-là, elle n'existe plus, en fait. Et du coup, nous, ça nous intéresse beaucoup, le compost de déchets verts, parce qu'il y a une part de peut-être 15-20% de bois, en fait, qui n'est pas composté encore, qui fait partie des branches, les petits troncs d'arbres, etc., ou les petites, toutes les branches, les feuilles mortes qui n'ont pas été encore compostées. Et donc, en apportant ce compost sur nos jardins, on apporte une part non négligeable de matière fraîche, et c'est elle qui va stimuler la vie du sol, plus que le compost à proprement parler. Et aussi, en termes de volume, il n'y a que les plateformes de compostage qui sont dans des déchetteries ou qui sont à part. Nous, on travaille avec une plateforme qui est indépendante, qui ne fait pas de déchetterie à côté, mais qui fournit des grosses quantités de compost.
Et vous devez les broyer, alors, ces déchets verts? Vous
les mettez c'est les plateformes, oui, qui les broient directement. Ils ont des installations, en fait, pour broyer les déchets verts. En règle générale, ils trient les déchets potentiellement plastiques avant. Il peut y avoir des sacs plastiques, il peut y avoir des pots de plastique, d'arbres d'ornement, par exemple, des particuliers qui sont venus mettre ça à déchets verts. Donc ils enlèvent les plastiques, ils broient, et ensuite il y a une sorte de contrôle température-humidité pendant au moins 6 mois, voire des fois 12 mois. Ils retournent le tas très régulièrement. Enfin, c'est quelque chose d'assez contrôlé, d'assez suivi.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On va écouter un morceau de Louis Jucker et ça s'appelle We Will Touchdown.
sister, I know there is no snakes in the dirt. Oh. Would I pick a card and left you here when I realized?
Radio Saint-Ché et sur RDIWA, c'est Il est une vallée consacrée aujourd'hui à la thématique du sol vivant, la vie dans le sol, avec trois invités, Aurélia Diasnis de Permalab, Blandine de Montmorillon de Compost et Territoire, et puis Corentin Morisseau de la Ferme des Buis, qui est maraîcher justement. Corentin, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette expérience que vous menez avec la Ferme des Buis depuis maintenant 4 ans, je crois. L'idée, c'est de travailler avec différents labos, justement, qui analysent les sols, qui analysent la microbiologie des sols. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ?
Oui, quand on est arrivé il y a 4 ans sur la ferme, on disposait de sols qui sont considérés comme relativement pauvres. Pauvre en matière organique, on était à 2% de matière organique, et puis assez pauvre en vers de terre. On était à peu près à une tonne hectare de vers de terre. C'est pas extrêmement pauvre, mais c'est pas suffisant pour faire du maraîchage qui va vraiment avoir des rendements intéressants pour qu'on puisse s'en sortir un salaire, en fait.
Alors, je vais te couper, tiens. Très poliment. Non, je l'ai pas dit, mais j'ai vu ça passer plusieurs fois récemment. Je ne sais pas si ces chiffres sont exactement réels, mais j'ai lu qu'en 1950, il y avait en moyenne 2 tonnes de lombric, justement, par hectare de terre en France, et qu'aujourd'hui, il n'y en aurait plus que 200 kilos.
Oui, c'est des chiffres qu'on lit, ouais.
Toi, chez vous, c'était plutôt à peu près une tonne par hectare.
Oui, alors je ne sais pas si ces chiffres ils correspondent aux hectares de sol totaux ou aux hectares de sol agricoles.
Oui, c'est vrai.
Donc je ne saurais vraiment pas me prononcer. Nous, on était à une tonne hectare sur une luzernière qui n'était pas travaillée tous les ans. Et du coup, c'est vrai que la population de vers de terre, elle se régénère relativement vite quand les sols ils sont laissés tranquilles. Mais une tonne hectare et 2% de matière organique, c'est trop peu en fait pour des sols comme les nôtres, là, qui sont exposés quand même au soleil, au vent, qui ont beaucoup d'argile. Nous, on a 35% d'argile dans nos sols, donc c'est des sols très très lourds qui mettent beaucoup de temps à se réchauffer au printemps. Il faut des sols qui vivent beaucoup plus en fait. Et on a eu la chance d'avoir l'aide d'une association qui s'appelle l'Université de l'Avenir, qui nous a aidés à mettre en place un peu des suivis. On a pu avoir un cofinancement aussi avec un leader vallée de la Drôme et puis le département, qui nous a permis d'avoir un petit budget pour pouvoir travailler avec un laboratoire d'analyse en microbiologie de sol qui s'appelle le Celestalab. Et puis différents experts, entre guillemets, des sols, dont Gilles Domenech, avec qui moi j'ai beaucoup travaillé sur la question justement du maraîchage sur sol vivant. qui est un expert des sols.
Alors l'idée, c'est que chaque année, vous faites des prélèvements. Gilles Domenech vous a formé pour faire les prélèvements.
Il nous a montré comment faire les prélèvements, en tout cas, oui. Oui, on fait des prélèvements de sol pour envoyer au laboratoire d'analyse en microbiologie de sol, qui, eux, vont nous dire comment notre sol vit, en fait, quel est le taux de matière organique qu'on a dans nos sols, mais surtout, quel est le taux de microfaune, quelle est la masse de microfaune qu'on a dans nos sols, en fait, et qui va nous générer notamment de l'azote disponible pour les plantes. On fait aussi des relevés vers de terre pour savoir comment la population de vers de terre elle évolue année après année. Et ces trois indicateurs-là, pour nous, ils sont vraiment très importants pour comprendre un peu mieux comment ça évolue. Le fait qu'on apporte massivement du compost en surface, avec un petit peu de matière fraîche quand même, je disais, dans le compost, il y a un peu de bois. On voulait voir voilà, si les changements étaient à peu près en accord avec ce que nous on espérait, ce que nous on attendait, ce qu'on imaginait en ayant lu les différents bouquins sur le sujet. Et du coup, ça a été assez intéressant de pouvoir faire ces analyses-là, parce que c'est un peu une boîte noire, le sol, en fait. Quand on regarde, quand on creuse, on peut voir s'il y a plus ou moins de vers de terre, s'il y a plus ou moins de, au niveau de la couleur, de matière organique, etc. Mais c'est quand même très, très difficile d'avoir une vision précise de ce qui se passe. Et surtout, année après année, en fait, on oublie les référentiels si on n'a pas eu des mesures un peu chiffrées. Et donc là, ça nous a permis de voir que déjà, en termes de matière organique, on est passé de 2% à... On est à combien ? On est à 15,7% cette année de matière organique dans les 25 premiers centimètres du sol, en enlevant évidemment le mulch de compost qu'on a mis sur la surface. Donc ça veut dire qu'on a largement enrichi notre sol en matière organique. Ça, c'est une bonne chose parce que ça va mieux retenir les nutriments, ça va avoir un meilleur drainage, le sol. On retient aussi beaucoup mieux l'eau. Donc pour nous, on gagne beaucoup en propriété de sol quand on enrichit en matière organique. On a pu constater aussi qu'on a quadruplé la biomasse de microbes et de bactéries dans nos sols. Donc ça, pour nous, c'est aussi très intéressant parce que ça nous apporte beaucoup d'azote disponible pour les plantes. On est passé on devait avoir 20 ou 30 unités d'azote à l'hectare, ce qui est très très peu, à 300 aujourd'hui, simplement généré par l'activité des microbes. 300 unités d'azote hectare, c'est ce qu'on va avoir besoin pour une culture de tomates. Donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc pour nous, ça a un impact significatif. On est à peu près à des rendements deux fois plus élevés pour les mêmes cultures qu'il y a 4 ans. Donc en fait, pour nous, ça a aussi ça se traduit dans les rendements qu'on a, les récoltes qu'on fait et du coup les salaires qu'on peut se verser. Donc ça a quand même une importance directe pour nous. Et puis le dernier chiffre qui me semble intéressant, c'est la population de vers de terre, où on est passé d'une tonne à 4 tonnes, puis 10 tonnes, puis 18 tonnes chaque année. Donc c'est quand même, on a pas loin de doubler chaque année la population de vers de terre. Ça fait vraiment une augmentation massive de vers de terre. Effectivement, aujourd'hui, quand on creuse dans les sols pour aller récupérer les carottes ou déterrer les pommes de terre ou les patates douces, on voit bien qu'on a une grosse population de vers de terre, beaucoup de petits, des juvéniles, c'est-à-dire que la population elle est vraiment récente, mais voilà, ça montre clairement qu'il y a une amélioration des conditions de la vie pour la macrofaune aussi, quoi.
Les vers de terre, on peut en parler des vers de terre ? Qui souhaite nous parler des vers de terre ? À quoi ils servent vraiment ces vers de terre ? Plus il y en a, mieux c'est.
Ah ouais, plus il y en a, mieux c'est, on peut le dire quand même.
C'est sûr.
Ben ouais, je veux bien commencer. Les vers de terre, ben, ils ont plein de fonctions. Par où commencer en fait ? Déjà, ils font des allers-retours en fait entre la surface et le fond. Et donc ils enfouissent la matière organique au fond et ils ont une petite glande à l'intérieur d'eux. Et donc ils prennent la matière organique qui est négative et ils l'emmènent en bas qui est elle et ils vont chercher l'argile en dessous qui est négatif aussi. Et à l'intérieur d'eux, cette petite glande de Morène, elle a deux ions positifs. Et du coup, c'est ça qui crée le complexe argilo-humique qu'on appelle. Donc c'est un petit peu complexe tout ça, mais en soi, ouais, ils sont tellement essentiels parce que ce complexe argilo-humique, c'est vraiment... Ouais, c'est ça qui,
qui fait l'humus et c'est ça qui fait la stabilité du sol. Il n'y a que eux qui font ça vraiment. Il y a eu des pratiques où ils amenaient carrément de l'argile sur les terres, parce que quand il n'y avait pas les vers de terre qui faisaient ce travail. Donc voilà déjà. Et donc avec leurs petites galeries aussi, ça crée des couloirs pour les racines, pour qu'elles puissent aller en plus en profondeur, explorer le sol. Et aussi ça dirige l'eau au fond dans le sous-sol. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Il y a tellement de choses.
On pourrait dire que c'est les ingénieurs du sol, en fait.
Oui, les ingénieurs du sol.
Les ingénieurs du sol. Et puis, alors, si, pour préciser ça, il y a trois catégories. Hein. Les épigées qui sont à la surface, sur la litière, qui sont un petit peu rouges, c'est les vers de compost, un peu... Quand on fait du lombricompostage, on prend Esenia, par exemple, c'est les vers un petit peu rouges, très actifs, là, c'est les excités. Et eux, ils vont donc décomposer une partie de la litière, qui est déjà un petit peu décomposé, enfin en forêt, puis quand c'est dans le compost, c'est pareil. Et puis il y a ceux qui sont plutôt en profondeur, les endogés, qui eux sont plus gros, plus blancs, parce qu'ils n'ont pas trop de lumière, qui vont créer justement des galeries qui vont faire circuler l'air et l'eau. Et puis alors ceux qui sont vraiment super utiles, alors ceux qui sont tout le temps en train de travailler, ils font des galeries verticales entre le haut et le bas, c'est les anéciques. C'est ceux qui sont assez les plus courants qu'on voit, nous. Et eux, ils vont transporter de la matière qui est déjà un petit peu décomposée. Ils vont l'enfouir dans leur galerie et ils vont la faire ressortir donc, de leur tube digestif qui est très très long, enrichi en matière organique et avec ce que tu as dit tout à l'heure. Et ça va être, on va le voir à l'extérieur par les petites turricules, les espèces de petits tortillons qu'on voit. Et ça, c'est des tortillons qui sont super riches en matière organique utilisable aussi après par les plantes. Et ça, c'est tellement riche qu'il y a des gens dans les stades, ceux qui font de la culture de bonsaï, ils vont chercher les turricules dans les stades pour aller
dans les stades de foot.
Voilà, dans les stades de foot, okay. Parce que ça se voit bien dans la prairie, les petites turricules qui dépassent. Et ils se servent de ça pour nourrir leur bonsaï. Donc, c'est vraiment les ingénieurs du compost, quoi. Du sol, d'une façon générale. Et si on n'avait pas de vers de terre, on n'aurait pas cette aération permanente du sol qui fait circuler l'air, l'eau et puis toutes les matières en cours de décomposition, en fait. Parce qu'il y en a plein qui décomposent, hein. Les cloportes, les colamboles, tout ça, ça décompose, les cétoines, les larves, tout ce qui est vert, blanc, tout ça. Mais après, une fois que c'est décomposé, cette matière, il faut la transporter, il faut l'homogénéiser. Et puis il faut faire remonter d'en bas. Si on avait un schéma, il y aurait aussi une flèche qui monte d'en bas, qui est la matière minérale qui vient de la roche-mère en dessous, qui se décompose petit à petit. Et c'est aussi ces vers de terre qui vont faire ce mélange entre la matière organique qui descend en décomposition et la matière minérale qui est décomposée à partir de la roche-mère. Et c'est ça qui fait le complexe argilo-humique. Donc sans vers de terre, on ne peut pas avoir ce complexe, quoi.
Sans vers de terre, et si je comprends bien, sans la microfaune aussi.
Voilà, tout ce qui va autour. On parle toujours des vers de terre, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres, quoi. C'est des chaînes alimentaires, hein. C'est une population. Enfin, ouais, c'est un écosystème, quoi. Donc, c'est organisé pour que tous les animaux, toute cette microfaune, donc champignons, bactéries, et puis macrofaune, tous ceux qu'on voit à l'œil nu, ils s'organisent entre eux, ils fonctionnent entre eux, et y a un petit peu aussi des prédateurs. La troisième catégorie, c'est les mille-pattes, qui sont les prédateurs un peu des autres, parce qu'il faut bien réguler de temps en temps la population, quoi.
Donc les mille-pattes sont utiles aussi.
Ouais, exactement. Difficile à voir, mais très utile.
Un bel hommage aux vers de terre, en tout cas. Merci. On arrive tout doucement vers la fin de l'émission. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. Vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Je pense qu'il y aurait encore des tonnes de choses à raconter sur le sol. Est-ce que vous auriez des références à donner à nos auditrices et à nos auditeurs films, livres, podcasts, des choses qui pourraient éclairer les gens, Aurélia?
Ouais, moi j'ai des films. Il y a Kiss the Ground, qui est vraiment fascinant sur le sol. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, c'est Fantastic Fungi, donc sur les champignons. Ça, c'est un monde aussi vraiment à aller explorer. On connaît que 9% des champignons dans le monde, donc on a encore beaucoup de travail. Et en livre, en référence, il y a Claude et Lydia Bourguignon, qui sont voilà, des scientifiques, des chercheurs. Ouais, après, il y en a plein d'autres livres, mais ceux-là, ça reste voilà, assez accessible. Et puis, ils sont aussi, on peut les retrouver sur YouTube, ils ont beaucoup de conférences.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres
choses à nous, on conseille toujours le livre de Denis Pépin, qui est celui qui a le plus écrit depuis très longtemps sur le compost. Hein, c'est le compost. Donc, c'est Compost et paillage au jardin. Et je crois que c'est aux éditions Terre Vivante. Et puis, ouais, le film des époux Bourguignon, c'est super, quoi. Ils font vraiment comprendre d'une façon très pédagogique ce que c'est qu'un sol.
Corentin ?
Bah pour moi, de ce qui est un peu appliqué à l'agriculture, du coup, de ce que j'ai pu consulter, il y a le livre, je crois, qui s'appelle Le sol, la terre et les champs, celui de Lydia et Claude Bourguignon, qui me semble vraiment intéressant parce qu'il est. Il est compréhensible par tout le monde et il est assez. On découvre beaucoup de choses sur l'impact de la vie du sol sur nos productions agricoles, diverses d'ailleurs. Et j'aime beaucoup aussi les quelques vidéos qu'on trouve sur le sujet sur Vers de Terre Production, qui produisent beaucoup de vidéos, alors plutôt à destination des maraîchers, des agriculteurs, mais qui sont assez facilement compréhensibles, et ils en ont fait quelques-unes sur le sujet justement du sol vivant, fonctionnement des vers de terre, etc. Et puis Marcel Boucher, qui est le grand spécialiste des vers de terre en France depuis peut-être 30 ou 40 ans, qui est un vieux monsieur maintenant, qui est venu faire une formation chez nous il y a une semaine, 10 jours maintenant, donc on a eu la chance de l'avoir sur la ferme. Il raconte vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes sur les vers de terre, très pointues aussi, alors plutôt adaptées à l'agricole, mais je conseille quelques-unes de ses vidéos. Ouais.
Merci pour ces références. Vous avez tous des sites internet avec plus ou moins des actualités. Permalab, il y a un site internet.
On a un site internet et on a surtout une page Facebook qu'on alimente régulièrement. Vous pouvez retrouver toutes nos formations et un peu suivre aussi nos projets.
Compost et territoire,
oui, on a un site, donc compost au singulier, -territoire au singulier.org, où il y a un peu les actualités. On vient de faire une journée du sol vivant, justement, au début octobre. Ça s'est passé à Chabriant. On a fait des démonstrations de tous les systèmes qui nous permettaient de garder nos déchets verts à la maison. Et puis, bientôt, il y aura une formation guide composteur organisée par le CITRAD. C'était notre syndicat de traitement de la Drôme, là. Et donc, ça sera 16 nouvelles personnes qui vont être des nouveaux ambassadeurs du compostage sur le département.
Cette formation, elle aura lieu où ?
Elle aura lieu à Eure, avec la commune de Eure, parce qu'on a un compostage partagé. On a un jardin pas loin, une salle pour pouvoir faire des démonstrations de broyeurs. Voilà, donc c'était assez pratique et assez central. Et aussi, surtout, parce qu'on a une élue de Eure qui est aussi la référente du composteur de l'école. Donc, pour témoigner, on a trouvé ça très intéressant.
Donc, plus de détails sur le site de compost voilà. Et territoire. Et Corentin, pour la ferme des Buis.
Moi, je publie l'essentiel de nos pratiques et de nos informations sur le site petitmaraîchage.fr. Et puis, on est en train de monter une vidéo qui synthétise un petit peu nos travaux et puis nos résultats sur justement le maraîchage sur sol vivant, en tout cas ce que nous, on obtient avec le non-travail du sol sur notre ferme. Elle devrait arriver bientôt et être en ligne sur le site.
Ça marche. Merci à tous les trois.
Merci
d'être venus dans le studio de Radio Saint-Fé. Je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que cette émission, Il est une vallée, elle est diffusée sur Radio Diwa aussi en simultané. Et puis, elle est rediffusée demain à 8h. Ce sera le 4 novembre, jeudi 4 novembre. Merci Romain pour la technique, toujours fidèle. Et puis, merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute.
Radio Saint-Féréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.